On n'est pas du monde, version 15 minutes, avec Antoine Malenfant et son invité.
Aujourd'hui à l'émission, Francis Denis décortique le film Joker. Il y a un film ces temps-ci qui fait couler beaucoup d'encre, c'est le film Joker de Todd Phillips. Et notre chroniqueur Francis Denis l'a vu pour nous. Salut Francis.
Salut Antoine.
T'as beaucoup de choses à penser, à dire toi aussi là-dessus, mais évidemment avec ta couleur de théologien, de philosophe, de penseur... ta première impression là, d'abord sur ce film-là?
Ouais, c'est un grand film, c'est une très belle expérience cinématographique, humaine, je dirais même spirituelle.
Ah ouais?
Oui, par opposition d'une certaine façon, parce qu'il nous fait toucher un peu les profondeurs sombres de toute personne humaine, d'une certaine façon, et donc par opposition, ça nous élève que d'être en présence de ça. Ça nous montre un peu comment, sans la grâce de Dieu, on peut faillir.
OK, c'est pas un film drôle. Là.
Non, vraiment pas.
OK, Joker, il y a pas de... Non, c'est ça, c'est pas de blague là-dedans. Alors, justement, le synopsis, ça ressemble à quoi,
ben,
Francis
c'est
Denis?
Ça. Donc, t'en as mentionné un peu, là. Le Joker, c'est vraiment un grand film qui a vraiment fait presque l'unanimité dans les critiques mondiales. Ça a sorti au Festival de Venise, a gagné le Lion d'Or. Disons, c'est... Tout s'accorde pour montrer comment ce film est le résultat vraiment d'une équipe, d'une belle collaboration entre Joaquin Phoenix, qui interprète Arthur Fleck, qui deviendra le Joker, et Todd Phillips, comme tu l'as mentionné, qui est le réalisateur de ce film. Donc, il y a eu de très, très bonnes critiques à tous les niveaux, sauf peut-être une espèce de, comment je pourrais dire, une critique un peu moralisatrice qui a vu dans ce film-là, un film violent. Mais la dernière fois que j'avais entendu les critiques être contre un film à cause de sa violence, c'était celui de La Passion du Christ. Alors pour moi, ça a été un bon signe. Je me suis dit, bon, ici...
Allons voir ça.
J'ai pas entendu de critiques contre Terminator et sa violence. Donc j'ai décelé un peu d'arbitraire à ce niveau-là. Et on a aussi essayé de voir dans ce film une espèce de justification du crime, justification comment, d'une certaine façon, le Joker serait légitimé dans sa descente aux enfers et dans la violence. Moi, j'ai pas vu ça du tout.
Okay.
La plupart des critiques se sont plus orientées sur une critique, on pourrait dire, bon, au sens où ce film manifesterait un peu l'exclusion sociale, la violence excessive dans nos sociétés et surtout, la maladie mentale. Mm. Donc, on a vu dans le Joker, dans la descente de Arthur Fleck, le personnage principal, vers le Joker, on a vu vraiment une descente dans la maladie mentale.
À quoi ressemble le récit, l'histoire de ce film-là, Francis?
Ben, c'est ça. Donc, vraiment, la trame narrative se divise en deux. Il y a la première partie, c'est Arthur Fleck, auquel on assiste vraiment à la vie de cet homme un peu médiocre, si on se fie aux critères, disons, hollywoodiens, vraiment de tout ce qui est de plus banal. C'est il a fait un peu de passage à l'asile, il en est ressorti et là, il est d'une certaine façon en probation. Il rencontre une travailleuse sociale qui lui donne un peu de médication. Et donc, il est clown un peu. Il travaille pour une agence de clown où est-ce qu'il est engagé pour faire un peu de la publicité sur la rue et tout ça. Et donc, on assiste vraiment à une victime au sens presque pur du terme. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de fondamentalement bon, qui recherche lui-même à être conforme à la morale publique, aux grands idéaux moraux, les principes du bien de la société de Gotham à ce moment-là, et qui, par son espèce de naïveté, devient une victime, il se fait attaquer ici et là, on lui vole. Donc, on assiste vraiment à des scènes touchantes. Là. Bon, comme je l'ai manifesté, c'est un homme un peu médiocre, vraiment qui a rien, donc on s'attache à lui de par son...
Ouais.
De par son état de victime.
Ouais.
Et on le voit se faire tabasser pour rien, absolument gratuitement. Donc, on voit comment on s'attache à lui de par son caractère de victime.
Simon?
Mais est-ce que c'est pas un peu rousseauiste tout ça? T'sais, l'homme est naturellement bon, puis c'est la méchante société qui le corrompt, puis au fond, s'il devient un criminel, c'est donc pas de sa faute, c'est à cause de ses parents ou de la cité qui l'a mal éduqué.
C'est une lecture qu'on pourrait faire, et cette lecture un peu de la maladie mentale va dans ce sens-là. Moi, c'est pas la lecture que j'en ai fait. Mm-hmm. J'en ai fait plutôt, bon, comme je le mentionnais, Arthur, dans sa première partie, bon, il est vraiment cette victime, et même il y a des références au homard, la métaphore du homard de Jordan Peterson, qui si vous l'avez lu dans le premier chapitre de 12 règles pour la vie, on voit, il y a des scènes où est-ce qu'on le voit recroquevillé, il est tout maigre, on le recroquevillé sur lui-même, tel le homard au fond de la hiérarchie qui décide presque de se laisser mourir. Donc, c'est l'histoire de cet homme-là, il prend soin de sa mère et tout ça. Donc, c'est vraiment, on voit en lui, là, il veut vraiment satisfaire aux injonctions de la morale publique. Ce qu'on voit, par exemple, dans une scène où est-ce qu'il fantasme, il rêve de sa participation à une émission de télévision où est-ce que son animateur préféré le reconnaît dans sa bonté de prendre soin de sa mère, vraiment qu'il sans aucune reconnaissance et qu'il, donc il rêve cela. Donc on voit en lui dans d'autres exemples aussi, par exemple on lui à un moment donné son collègue lui donne un fusil et il dit ben non, j'ai pas besoin de fusil, voyons. Et les petits jeunes qui le tabassent, il les excuse, ah non, ben ce sont des petits jeunes, ils voulaient pas vraiment faire du mal, etc., etc. Donc on voit vraiment qu'il veut croire en l'horizon de moralité de Gotham, et il croit en une rétribution éventuelle de son bon comportement. Donc, on pourrait dire, en gros, certains lui ont vu bon, une victime. Moi, j'y vois surtout un homme très, très conformiste, ouais, mais d'un conformisme subi et non pas assumé.
Et là, Francis Denis, on voit cet Arthur Fleck-là basculer. Tu parlais il y a deux parties dans le film. Quel est le point tournant et vers quoi ça débouche?
C'est, bon, le point tournant, il est graduel. Donc, moi, j'ai vu qu'il se fait en deux étapes. Donc, on voit que cette victime-là, bon, il finalement, bon, alerte divulgacheur. Je fais cette alerte-là.
Attention, la bouche, les oreilles, bouchez-vous la chronique toute seule.
Le film est sorti il y a un mois, donc j'imagine que je peux en parler publiquement. Mais vraiment, je vais dévoiler peut-être des petites choses, là. Dans le film, justement, j'ai manifesté que son collègue lui donne un fusil, il refuse, mais finalement, il accepte. Et finalement, il finit par s'en servir, puisqu'il se fait une fois de plus attaqué gratuitement par ce qu'on appelle des loups de Wall Street, d'une certaine façon, là, vraiment des gens qui sont respectés par le cadre social et tout ça. Et donc, il décide de se défendre. Donc, dans un premier geste d'autodéfense, il sort le fusil, il tire, et là, il se libère en lui une espèce de joie un peu fanatique de cet acte de liberté pure qu'il vient de faire. C'est comme s'il venait de se libérer d'une prison, et là, il décide non pas d'arrêter à cet acte d'autodéfense et de s'enfuir, appeler la police. Non, il décide de tuer tout le monde, les trois d'une manière purement gratuite et sauvage. Donc, on voit...
Il y avait une violence ou assurément une souffrance qui était refoulée et là, qui s'exprime à travers cet acte-là.
Exactement.
Mais en quoi c'est pas de la maladie mentale? Tu disais, c'est pas un film sur la maladie mentale, mais quand même, avoir de la joie à tuer des gens, moi, je trouve que c'est un peu fou, non?
C'est un peu fou si on utilise le langage usuel, mais si on regarde profondément, moi, j'y vois pas un geste de folie, mais un choix pour le mal, libre et conscient.
Donc,
et
qui n'est pas de la folie. Un vicieux, dans le fond.
Et il devient, d'une certaine façon, très, très vicieux. On va voir jusqu'où ça mène. Donc, il devient ce malin, là, ce super vilain, comme on dit, dans les films de super-héros.
Ouais.
On le devient, d'une certaine façon, en deux étapes. Donc, je viens de le montrer. Le premier, trois meurtres qu'il fait. Ces trois meurtres-là le font sortir de sa naïveté juvénile, d'une certaine façon. Il fait l'expérience à ce moment-là d'une espèce de liberté extatique, comme tu l'as mentionné. Il sort de cet état-là et donc il sent une liberté monter en lui dans ce geste vraiment aux antipodes de ce qu'il considérait être la moralité, ce qui était bien, tout ça. Mais
donc, il n'est plus conformiste à ce moment-là.
On pense qu'il n'est plus conformiste. Aha. Donc, on voit dans cette extase-là, et manifesté cinématographiquement par une espèce de danse. Il se met, bon, d'abord, il part à courir, il a peur, il comprend pas, il s'enferme dans une espèce de salle de bain un peu glauque. Et là, la musique commence et là, il se met à danser. Une danse vraiment... c'est comme s'il entrait en symbiose avec une dimension de lui-même qu'il n'avait jamais connue, mais qu'il le révèle de cette façon à qui il est véritablement. Mmh. Ça, c'est une perspective que j'ai vue. Mais pour moi, mon analyse de cet état extatique...
Il découvre qu'il n'est pas si bon que ça, finalement. Puis...
Je dirais pas ça. C'est-à-dire qu'il cette danse-là manifeste une espèce de symbiose qu'il découvre entre le mal qu'il vient de découvrir et assumer et le monde extérieur tel qu'il est réellement.
Ah!
Et donc là, il se découvre à la fois lui-même dans cet acte maléfique et mauvais, et il découvre la méchanceté du monde. Donc, on dirait qu'il avait deux voiles qu'il s'était mis devant lui-même et devant le monde. Il découvre un peu, c'est une naissance, d'une certaine façon, cet acte mauvais. Et donc, la deuxième partie de cette métamorphose, c'est lorsqu'il devient... Le meurtrier, il est dépeint comme étant un clown, puisqu'il était habillé en clown au moment des meurtres.
Ouais.
Et donc, il y a une espèce de société, la société elle-même s'identifie maintenant à ce clown-là qui a tué les deux loups de Wall Street. Et donc, il reçoit une espèce de confirmation de cette nouvelle identité qu'il a trouvée, puisqu'il devient un héros. Mm-hmm. Il devient un héros public, parce que j'ai appelé dans le texte qui est sur le blog du Verbe, les espèces de gilets jaunes de Gotham. Il y a un sentiment de frustration sociale qui est vraiment là. Et donc, il voit cette confirmation, cette danse, cette nouvelle symbiose avec le mal et la confirmation qu'il reçoit de cette société-là, d'une certaine façon, fait émerger en lui une posture d'une espèce de cynisme ontologique.
Mm-hmm.
Et donc, il devient le Joker. Il cesse d'être Arthur, il devient le Joker, celui qui rit des prétentions de supériorité morale ou de moralité de la société. Mais est-ce que vraiment... donc, ça, c'est ce que j'ai vu. Et donc, on pourrait y voir un espèce de passage d'un conformisme à un non-conformisme.
Ouais, non, c'est ça.
Mais finalement, moi, ce que je vois, c'est qu'on passe d'un conformisme à un autre conformisme. Parce que le nouveau Joker, d'une certaine façon, puisqu'il reçoit la reconnaissance de la population, il est un nouveau conformisme. Il passe d'un conformisme à une morale mensongère qui n'est pas réelle, d'une certaine façon, tout le monde s'en fout, qui est, d'une certaine façon, la morale chrétienne, on pourrait dire. Bon, Gotham se projette un horizon de moralité chrétienne, mais il n'est pas à la hauteur et finalement, ce n'est que de l'hypocrisie et lui, il tombe dans le cynisme. Et de l'autre côté, le conformisme, ce nouveau conformisme, c'est la moralité réelle de Gotham, c'est-à-dire non
un
pas les idéaux,
cruel,
mais ce qui se passe pour vrai. Et donc, c'est l'intérêt du plus fort, tout ce qu'ils veulent.
Voilà.
Et Joker, se pensant un cynisme par rapport à la moralité chrétienne, il devient conformiste de la moralité, disons, cruelle, comme tu viens de le dire. Et donc, on passe d'un conformisme à un autre, un acte libre et choisi. Et donc, on passe pas d'un personnage sain d'esprit à la folie, mais on passe vraiment il y a plus de continuité que de rupture entre les deux.
C'est intéressant comme point de vue. Simon Lessard?
Mais oui, je t'écoute parler, puis ça me donne l'image. C'est un clown, dans le fond, quelqu'un normalement qui est déguisé, qui a un masque, du maquillage. Mais c'est un peu l'inverse. C'est comme s'il disait, tu nous dis, le monde entier est déguisé. Lui, il est le premier à laisser tomber son masque pour révéler ce qu'il y a derrière ce monde qui semble, qui se dit moral en surface, mais qui est profondément immoral, cynique, nihiliste.
Oui, oui, c'est...
Donc,
c'est...
on peut dire le Joker est le seul démasqué dans
tout
ça.
Oui, puis il dit « ma vie était une tragédie et là, je me rends compte que ma vie est une comédie, d'une certaine façon. » Mais cette comédie-là, ce cynisme-là, d'une certaine façon, assume la moralité réelle de Gotham.
Il n'y a pas beaucoup d'espoir là, dans tout ça.
Ben oui et non, c'est-à-dire que nous, d'une certaine façon, si on voit ça comme ça, on peut dire, ben non, il n'y a pas d'espoir au sens direct, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'horizon, lui-même ne nous propose rien de bien. Si ce n'est qu'on voit que Bruce Wayne va grandir et devenir Batman et devenir son...
OK, Batman est dans le film.
Oui.
OK, je vais aller voir.
OK, il y en a de l'espoir.
Oui, il y en a un petit peu.
Ah, bon,
mais lui-même est un
personnage...
est un personnage torturé, Batman, il ne faut pas l'oublier.
C'est vrai.
Mais ce qu'on voit, surtout, c'est les limites pour moi. Ce qu'on voit, on voit les limites de la morale conformiste.
Ouais.
Donc, ce que je vois, c'est qu'un horizon de moralité purement humain, décrété arbitrairement ou par la volonté du plus grand nombre, n'est pas assez solide pour faire face...
Sans fondement divin, finalement. Ouais.
Oui, exactement. Sans fondement divin, n'est pas assez solide pour faire face aux aléas parfois tragiques de la vie. Et donc, pour ne pas sortir, disons, dans une posture de cynisme comme le fait le Joker, lui et nous devons prendre en considération cet état de fait et manifester que non, l'horizon de moralité doit avoir un fondement divin. On ne peut pas laisser la morale à elle-même. Donc, c'est vraiment une très profonde critique. Je ne sais pas jusqu'à quel point Todd Phillips a vu tout ce qui est présent dans son film. Mais toi, c'est justement le génie d'une grande œuvre, c'est d'être, disons, plus grande que la volonté de son réalisateur. Ouais. Alors, moi, j'incite les gens, dans la perspective que je viens de manifester, à aller voir ce film si vous avez 13 ans et plus.
Francis Denis, tu nous décortiquais le film Joker. C'est à l'affiche encore dans la plupart des cinémas. On peut lire ton texte. Joker n'est pas devenu fou et c'est en ligne sur leverbe.com. Merci beaucoup, Francis.
Merci à toi.
C'était On n'est pas du monde, en version 15 minutes, avec Antoine Malenfant et son invité.